bienvenue dans cette nouvelle chronique naturaliste de la Nichoule, une chronique qui nous est proposée comme chaque semaine par des membres de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux et de la Biodiversité, l'antenne Royan-Vercors. Aujourd'hui, nous accueillons Luc. Bonjour Luc.
Bonjour.
Et François. Salut François.
Bonjour Radio Royan-Vercors.
Alors aujourd'hui, on va parler d'une chronique qui fait croix-croix, qui croisse. On va parler des grenouilles.
Tu crois?
Oui, c'est l'époque où c'est la reproduction, hein, c'est le printemps pour les oiseaux, les mammifères et les batraciens. Et donc, les grenouilles aussi, bah, c'est l'époque où elles vont pondre. Donc, par exemple, la grenouille rousse, qui est une grenouille qui est assez commune, en fait, qui est une petite grenouille de 7 cm à peu près de long, elle peut pondre très tôt. Même quand il y a de la neige en montagne, elle peut pondre, elle est très pressée, en fait. Donc, les grenouilles, les crapauds, les tritons, et tout, ils reviennent pratiquement là où ils sont nés pour pondre et pour se reproduire. Et donc, par contre, la grenouille rousse, elle peut faire beaucoup d'œufs parce que c'est, il faut après les œufs pour évoluer, c'est vraiment très aléatoire. Donc, sur 300 œufs qu'elle va pondre, et il y en a peut-être un ou deux qui va arriver à être adulte. Donc c'est des tout petits œufs qui sont pondés dans l'eau, c'est très gélatineux, je pense que la plupart des gens ont déjà vu ça. Ça fait des amalgames chez les grenouilles, donc dans une mare il peut y avoir une ponte, deux pontes, 10 pontes suivant la taille. Et chez les crapauds, la différence c'est que c'est des filets qui peuvent faire 10 cm, 1 mètre, 2 mètres. C'est des filets qui s'entrecroisent, donc c'est une différence qui est très notable. Et voilà, donc la grenouille rousse, elle peut monter jusqu'à 2800 mètres d'altitude, qui est très haut, donc elle arrive à survivre, elle craint pas le froid, elle, et elle peut vraiment pondre dans des toutes petites mares, en fait, de rien du tout. Alors c'est dangereux, parce que les petites mares, eh ben, elles peuvent sécher très vite, donc cette année, c'est humide, elles craignent rien. Après, au niveau de la migration, eh ben, elles peuvent partir aussi, essayer de coloniser sur 1 ou 2 kilomètres, mais pas plus, hein, elles peuvent pas aller quand même très loin, et ça on le sait aussi, parce que quand on crée des mares, donc il y a une grosse tendance, heureusement, à faire des mares, créer des mares. Et bien, quand on crée une mare, c'est un trou d'eau, et le trou d'eau, il se remplit très vite par les grenouilles, par les libellules et tout ça. Donc, les libellules, c'est plus facile à voir parce que ça vole, donc ça peut aller très loin. Mais les grenouilles aussi, elles arrivent toutes seules, et très vite, en fait. Donc, elles ont un instinct à trouver un nouveau territoire. Alors, le problème de quand elles partent aussi chercher un peu ailleurs, les dangers aussi, c'est les routes. Donc, il y a des endroits comme la petite route qui descend au lac de Bouvante, la route sur la droite, là, qui va directement au barrage. Et bien là, il y a de grosses tendances de migration. Et là, il y a certains jours, certaines nuits. Bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais là, il y en a des dizaines, voire des centaines qui traversent la route, quoi. Donc là, il faut faire très attention. Donc la LPO a certains endroits, comme dans des collines, un endroit où elle met des filets pour les attraper, pour leur faire traverser la route, pour pas qu'elles se fassent écraser. Donc c'est très énergivore au niveau du temps aussi. Donc il faut poser des je sais pas 100, 200, 300 mètres de filets. Et puis tous les jours, là c'est vraiment tous les jours, elles tombent dans des seaux et on les fait traverser à la main. Voilà, donc ça se fait aussi. Donc l'idée après, c'est de faire des crapauducs. Les crapauducs, c'est de faire des trous et faire traverser les grenouilles sous la route, en fait. Donc ça se fait de plus en plus aussi, et ça fonctionne. Mais tout ça demande beaucoup de temps et des bénévoles. Voilà, il faut beaucoup de bénévoles, mais ça arrive à fonctionner.
Oui, alors on va faire une petite aparté avec la botanique, parce qu'il y a, un lien qui se fait avec les grenouilles. Il vient de loin, mais vous allez voir que c'est assez facile à comprendre. La rainette, on n'en a pas parlé là aujourd'hui, c'est pas des rainettes, hein, c'est des grenouilles.
Par chez nous, il n'y en a pas vraiment.
Rana, je crois que c'est en latin, la rainette. Oui. Hein. Et dans ces endroits très humides, poussent certaines plantes, hein, entre autres des plantes qui ressemblent, que tout le monde connaît, qui s'appellent les boutons d'or. Hein. Et les boutons d'or, c'est des renoncules. Hein. Donc Rana, Ranunculus, c'est l'endroit où vivent les grenouilles et où vivent aussi les boutons d'or. Voilà, donc c'est bien un nom d'animal qui a donné un nom de plante. C'est pas commun.
Merci pour l'anecdote qui va ravir les auditeurs et les auditrices de Radio Royan-Vercors. Et en ce sens, moi je vais te poser une question, François. Comment on dissocie et on différencie une grenouille d'un crapaud, visuellement? Parce qu'on fait souvent la confusion, ouais. On ne sait pas trop si on est face à un crapaud ou une grenouille. Comment est-ce qu'on peut reconnaître
ça? Les grenouilles, donc chez nous, on a la grenouille rousse et la grenouille agile. C'est des petites grenouilles, donc de 7 cm à peu près, et qui sont beaucoup petites. Et le crapaud commun, par exemple, est beaucoup plus gros. Et il a, alors la grenouille a la peau lisse en fait, voilà. Les rainettes, on n'en a pas vraiment chez nous, c'est plutôt méditerranéen. Hein. Enfin, dans le sud de la Drôme, il y en a, hein, mais sur le Royan, moi, j'en ai jamais entendu. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de bruit, hein, les rainettes. Ouais. Mais voilà. Et les crapauds sont, ont une peau très verruqueuse, ont des grosses verrues sur la peau. Voilà, c'est une des distinctions. Mais chez nous, on n'a pas non plus une. Il y a d'autres crapauds aussi, un peu plus au sud, dans la Drôme et autres, qu'on n'a pas nous chez nous. Nous, on est plus limité au niveau, hein, par la grenouille rousse, la grenouille agile, le crapaud commun. Voilà, les autres, moi, je les connais pas, en fait. Donc, après, il faut aller plus au sud.
Et tu disais qu'elle pouvait aller assez haut en altitude, cette grenouille rousse. Est-ce que tu sais si sur les hauts plateaux, il y a des batraciens? Est-ce qu'il y a une...
Mais oui.
Ouais, il y a une population là-haut.
Oui. Il y a une population qui se reproduit sur les petites mares de après la fonte des neiges, ou en même temps, en fait. Oui, sur les hauts plateaux, il y en a. Moi, j'en ai vu, oui, sur les hauts plateaux, des pontes de grenouilles. Alors, c'est pas les crapauds, hein, c'est les grenouilles rousses ou grenouilles agiles, hein, qui sont là-haut. Mais oui, elles s'adaptent. Elles sont vraiment adaptées au milieu montagnard.
Voilà. Et le cycle de reproduction de la grenouille, donc on connaît un peu ces images qu'on a vues tous dans nos cours de sciences naturelles quand on était à l'école. On voit qu'il y a l'œuf, le têtard qui grandit, les pattes qui poussent et qui devient grenouille. Combien de temps ça prend ce cycle entre le moment de la ponte et le moment où on a vraiment une grenouille
Ça dépend beaucoup de la température, en fait. Comme pour l'éclosion, une fois que les œufs sont pondus, s'il fait 10, 20 degrés, ça va aller très vite. Elle s'adapte, en fait, hein, et tous les animaux, même les larves de libellules, ça dépend beaucoup de la température et de ce qu'ils ont à bouffer aussi après. Mais ça peut être de quelques semaines pour, dans un endroit plutôt humide où elles ont bouffé, où elles peuvent être adultes. Ça peut être plusieurs mois. Voilà. Donc c'est vraiment très variable par rapport à la taille et la taille des animaux et la température, voilà, c'est ce qui guide l'évolution. Elle s'adapte, en fait, voilà, ils fonctionnent comme ça.
Et alors, est-ce que toi, t'as un retour à nous faire sur la population des grenouilles ou peut-être des batraciens dans le Royan Vercors? Est-ce que ça, c'est constant? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue?
Alors, on fait pas de comptage de protocole, et ça existe, les protocoles, hein. Moi, je fais pas. Mais ça va plutôt bien. Dès qu'on fait une mare, il y en a. Donc, à la ferme des Roussets, ils ont fait une mare. Donc, la même année, les grenouilles et les libellules arrivent tout de suite. Donc, ça veut dire que les populations existent. Et après, ça dépend, voilà, s'il faut garder les zones humides, d'une part. Ce qui n'est pas toujours le cas, et puis créer des nouvelles mares. Et c'est vraiment lié à l'humidité et aux zones humides. Donc plus il y a de zones humides, et ben mieux les animaux, les amphibiens se portent. Et dans le Royan, moi je pense pas qu'il y ait vraiment de problème par rapport à ça, quoi.
Ouais, il y a de l'humidité entre les combles, les rivières. Il y a pas mal de milieux différents, et c'est aussi des endroits où on peut observer pas mal de flore, Luc. Ces endroits, ces zones humides.
Ah oui, alors ces zones humides, là, par contre, là, pour la flore, c'est plus difficile de faire réinstaller une flore quand on fait une mare, bien entendu. Il faut du temps.
Ça prend du temps.
Il faut du temps, il faut un temps, oui, il faut beaucoup, beaucoup de temps. On a beaucoup de mal à comprendre déjà, de savoir. L'agriculture a évidemment installé une agriculture, hein, c'est-à-dire, alors, ça a des zones qui ont été drainées, il y a des zones qui sont. Mais probablement que la plaine du Royan, il y avait des zones humides, hein, il y a encore des boresses dans les fossés, on retrouve un petit peu des roseaux, on trouve un petit peu des massettes, des choses comme ça. Mais c'est des vestiges d'une ancienne flore qui était là, ainsi de suite. Avant de pouvoir refaire une flore comme ça, mais on l'a remarqué quand même, je sais qu'en plaine du Rhône, il y a eu des expériences de recalibrage des fossés pour refaire des zones inondables avec des fossés qui ont été tracés sinueusement, ainsi de suite. Et on voit bien que dès l'instant l'eau déborde, ça donne dans les prairies beaucoup d'humidité et assez rapidement, eh ben, des espèces de marais qui étaient disparues reviennent, ainsi de suite. Alors on ne sait pas d'où, si, on le sait, hein, c'est le vent, c'est les graines qui arrivent, les animaux qui les amènent, les humains aussi, ainsi de suite. Donc il y a des expériences comme quoi ça va aussi assez vite. Mais c'est temporaire. On installe une flore comme ça. Alors évidemment, tout ça, ben c'est faut le multiplier. Faut multiplier les zones humides. C'est très très important, très très important.
Eh ben, on va rester sur cette note de fin, sur une invitation donc à multiplier les zones humides à la fois pour les batraciens comme la grenouille rousse dont on a parlé dans cette chronique, et puis pour la flore assez précieuse, et puis également pour les mammifères, c'est précieux aussi ces zones humides, notamment l'été. Merci pour cette chronique, François.
Merci Radio Royan, Vercors.
À bientôt.
Merci.